Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Clauzier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Cette semaine, on va décortiquer la stratégie RH de DHL Express. Pas mal de logistique et d'international au menu. Et puis, on va parler handicap ensemble. C'est la 25e semaine du handicap au travail. On sera avec Nawal El Alaoui, consultante chez OnePon, qui a beaucoup, beaucoup d'énergie pour changer le monde. Et puis, pourquoi les démissions sont-elles toujours un psychodrame? Ça n'est plus possible. Et c'est le projet de Marion Vaquin, elle aussi, de changer complètement l'esprit de l'entreprise. Elle a cofondé Wixjob. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et aujourd'hui, on va parler logistique et décortiquer la stratégie ressources humaines de DHL Express. On est avec Antoine Van Der Plage. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le DRH de DHL Express. 125 000 salariés dans le monde, 3345 en France. Vous avez déjà recruté 600 personnes. Vous allez continuer.
638 personnes, exactement.
Précisément.
Et dans le futur, là, nous avons ouvert un nouveau hub. Nous avons investi 170 millions d'euros à Charles de Gaulle. Un nouveau hub qui va remplacer l'ancien. Et nous allons donc créer encore 250 postes.
Vous faites de la logistique, évidemment, de la livraison de colis. DHL, c'est la poste allemande au départ. Qu'est-ce qui fait qu'on aurait envie d'aller vers DHL plutôt que vers Amazon?
Alors, je pense que déjà, il y a les conditions de travail, mais après, nous avons beaucoup de choses, notamment en formation, qui sont très attractives. Nous consacrons plus de 5% de la masse salariale en formation, ce qui nous a permis, effectivement, de faire ce qu'on appelle beaucoup de talent review, de repérer les talents et de mettre des programmes par rapport à ces talents. Nous avons trois écoles en interne. On a la Sales Business School pour la force de vente,
ouais.
Donc qui permet d'accéder à des postes de management. Nous avons également ce qu'on appelle trajectoire succès, et ça c'est pour les opérationnels, pour accéder à des postes de manager. Nous avons également un programme HIPO, au potentiel tout simplement,
ouais.
Qui se décortique en trois volumes. C'est tout d'abord des cours d'anglais, je dirais, personnalisés. Nous avons également des modules de management dans des grandes universités, et nous avons également une semaine à l'étranger. C'est-à-dire que la personne va partir dans un pays étranger et travailler pour DHL pour qu'elle voie éventuellement l'international et notre maillage.
Comment ça marche? Comment vous identifiez le talent? Il y a des équipes?
C'est un comité. Chaque personne est revue et chaque personne a un plan de développement. Après, le plan de développement peut être, mais c'est pas pour ça que la personne est un talent. Mais tout le monde passe à travers ces panels, et l'idée, c'est d'identifier les talents.
Mais tout le monde a le droit d'avoir accès aux trois écoles dont vous venez de nous parler.
Non, il faut postuler. Non. Il y a un jury, d'accord, effectivement, qui va avoir les aptitudes à manager les équipes. Alors, il y a autre chose, c'est qu'on est très international.
Bien sûr.
On est présent dans 220 pays, et on a aussi des talent review, mais au niveau européen, ce qui permet effectivement d'avoir des transferts dans d'autres pays.
Alors, allez-y.
Non, par exemple, dans mon équipe, j'ai deux personnes qui sont parties. J'ai ma responsable recrutement qui est partie au Canada. Et j'ai une responsable de projet qui a pris un poste en Centrale Europe et qui est basée en Allemagne. Donc ça crée effectivement des exemples qui donnent envie effectivement de rester à DHL.
Et alors, qu'est-ce qu'il faut pour être identifié comme talent? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme aptitude?
C'est surtout du management, c'est-à-dire du coaching, de la culture, du feedback, fédérer, donner du sens. Donc énormément...
Ça, c'est votre but à vous. Mais les talents en eux-mêmes, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un talent?
L'enthousiasme, l'envie, l'initiative, démontrer effectivement sur le terrain qu'on sait manager des équipes, c'est naturel, souvent, et ça peut être acquis, mais c'est plus difficile.
Donc vous prenez des gens que vous faites monter au fur et à mesure dans vos équipes, ça donne envie d'évoluer, et pourtant, à votre board, chez DHL Express, vous êtes une des rares entreprises, c'est quand même très étonnant, vous n'avez que des hommes exactement sur le même profil. Franchement, en 2020, c'est rare.
Alors oui, on a des efforts à faire, je vous le conjure, enfin je vous l'accorde, mais les N-1, on a effectivement un ratio qui est plutôt de l'ordre de 45-55 pour les 70 personnes qui reportent au quotidien.
Donc dans les exécutifs, il y a une diversité.
Il y a une diversité. Le problème, en fait, c'est pas un problème, mais l'historique, je dirais, c'est que dans les années 80, c'était quand même une industrie qui était très masculine.
Bien sûr.
Et comme mon turnover est très faible, hein, je le dis pas parce que, mais c'est une réalité, les mesures de rétention sont très bonnes, nous avons un turnover d'à peu près 2% volontaire.
Donc vous dites qu'il est hors de question de sortir le directeur financier pour le remplacer par une femme. Non, techniquement, c'est
viviers,
ça. Hein.
Les viviers étaient là, les personnes, et si vous prenez les 7 membres du CODIR, ils ont 150 d'expérience DHL. Donc il y a quand même une seniorité qui est assez importante. Mais effectivement, nous avons des efforts à faire. Nous avons mis des programmes, notamment un qui s'appelle DHL for her, DHL pour elle. Et en fait, c'est des personnes qui sont identifiées, qui sont potentiellement successeurs pour ces postes-là, les nôtres notamment, et qui sont parrainés et mentorés par des... par d'autres PDG d'autres pays.
Donc et ça évolue. Vous avez l'impression que le vivier
Je pense
est là
que
aujourd'hui.
Le vivier est là. Maintenant, effectivement, ça arrive. On ne va pas quand même licencier quelqu'un juste pour mettre une personne.
Ah bah, certaines entreprises font ce choix-là, de dire nous avons une entreprise proactive en termes d'image. Nous voulons qu'il y ait tant de femmes. C'est pas le cas.
Ce n'est pas notre cas.
Il faudra qu'ils aillent à la retraite. C'est ça que vous êtes en train de me dire.
Ça viendra.
Ça arrivera.
Ça c'est sûr. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on en a conscience. On n'est pas bon, effectivement, à ce niveau-là, et qu'effectivement, on a mis des programmes en place pour que ça puisse se réaliser. D'ailleurs, la dernière personne qui a été promue au sein de l'Europe, c'est la PDG Italie, et c'est une femme.
Sur l'image que peut avoir le secteur de la logistique, une image difficile avec une organisation parfois militaire qui est aussi liée à l'activité en soi de la logistique, qui est très cadrée, très organisée. Vous dites quoi ? Vous dites qu'il y a autre chose, il faut aller regarder derrière ?
Oui, il y a autre chose. Je pense d'abord que donner du sens, c'est que les salariés se sentent vraiment investis parce qu'ils savent qu'en bout de chaîne, c'est grâce à leur travail qu'on va réussir à livrer un colis. Il y a beaucoup de démarcheurs-livreurs, on dit oui, c'est compliqué comme travail, mais les démarcheurs-livreurs, ils ne font pas que livrer des colis. Il y a une relation client. Et je peux vous dire qu'il y a des clients qui demandent à garder leur livreur. Ils ont leur route, ils sont habitués, c'est leur livreur. C'est comme si vous aviez un serveur qui s'occupait que de vous, vous reviendrez dans le restaurant pour ça. Et bien nous avons des DL qui ont une vraie relation de client. Donc c'est deux composantes. C'est effectivement un peu de logistique, mais effectivement, on est quelque part aussi une société de service.
Donc vos livreurs, vous leur apprenez le service client aussi ?
Ah bien sûr. Ils ont un uniforme, il y a des phrases, il y a une façon de comportement. Donc effectivement, il y a du savoir. Être, qui est très important dans notre entreprise.
On a dû réorganiser tout le travail. Vous avez eu, j'imagine, un surplus d'activité lié à la livraison à DHL.
30%.
Comment ça s'est géré en interne, le fait de devoir se réorganiser, plus avoir un surcoût d'activité? Vous ne faites pas partie des boîtes qui ont dû s'arrêter, quoi.
Alors justement, on était complètement à l'inverse, on a dû recruter. Mmh. Mais bon, évidemment, certains secteurs étaient en souffrance, hein, on l'a vu, donc il a été très facile de recruter. On a toujours donné l'option, je veux dire, aux salariés, soit de venir ou soit de le faire en visioconférence. La plupart des salariés, futurs salariés, sont venus en entretien physiquement. Et donc, on a effectivement embauché énormément.
Et aujourd'hui, comment vous êtes organisé? Vous négociez des accords de télétravail?
Alors, nous sommes en cours de négociation d'un accord de télétravail. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sous le couvert du Covid, on a mis du télétravail en place. Donc, la plupart des gens ont 2 jours de télétravail. Donc, évidemment, c'est volontaire. On ne va pas forcer les gens à faire du télétravail avec l'accord du manager. Et certains services, comme le service client, c'est 1 semaine à la maison, 1 semaine au travail. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'outillage. Il faut doubler.
Ah, vous préférez cette organisation-là? Une semaine, plutôt que les 3 jours de jour?
Oui, parce que là, on recrée complètement le lien pendant 1 semaine.
D'accord.
Et il y a quand même du matériel informatique qui est assez lourd. Le service client doit répondre dans les 10 secondes. C'est rare, hein, quand vous appelez un autre...
Oui, ça donne envie d'appeler.
Ah oui, parce que vous allez vraiment dans les 10 secondes à 90%. Donc 90 appels, des appels qui viennent de l'extérieur, c'est dans les 10 secondes. Et c'est un indicateur de performance qu'on a beaucoup suivi, notamment en période de télétravail. Il s'est détérioré peut-être le premier mois ou le deuxième mois, mais après, il était même meilleur qu'avant. Donc c'est plutôt une bonne expérience.
Et du fait que vous soyez une boîte qui est du coup recrutée, qui est toujours travaillée pendant la crise, est-ce que vous avez quand même ces problèmes de création d'esprit d'équipe au sein du siège, ou finalement, vous êtes un peu passé à travers la crise?
On a gardé énormément de liens, et même au niveau européen, il y a eu des initiatives qui vont vous faire sourire. On a eu des Europarties.
Ouais.
D'accord. Et tout le monde pouvait se connecter. Donc, on avait 1500 personnes.
Des Europarties, mais en visio, quand même.
En visio. Ouais. Donc, 1500 petites cases. Et on apprenait à danser. On apprenait des cours de cuisine. Et après, on avait ce qu'on appelle le festival. Donc, festival, mais hall. Donc, tout le monde, tous ensemble. Et ça a créé beaucoup de liens. 1500 personnes qui participaient. Des quiz, des jeux. Et ça, on a essayé de garder tout le temps ce lien.
Les team building, mais en visio, vous avez continué.
Exactement. Mais là, pour toute l'Europe, hein. Donc après, se connecter qui voulait. Mais je peux vous dire que ça avait du succès. Les gens en ont parlé après avec des yeux qui pétillaient.
On fait vivement le retour du vrai team building. Vous en faisiez beaucoup avant chez DHL.
Oui, on en faisait énormément.
C'est revenu ou pas? Parce que ça revient là, un petit
ça
peu
va revenir,
au fur et à mesure.
Petit à petit, on a des événements qui sont assez importants. On a l'Eurocup, 3000 personnes qui viennent à Lommel, en Belgique. Et c'est des tournois de foot, ça dure 3 jours. Nos salariés de l'année, ça a toujours été des événements exceptionnels. 3 jours dans des capitales de rêve avec nous qui devenons eux deviennent VIP et nous on est à leur service. Donc là on mobilise vraiment tout le personnel et ils restent dans des palaces et après ils ont des activités qui vraiment en jettent plein les yeux. Et c'est ce qu'on souhaite parce qu'ils reviennent, ils en parlent.
Vous êtes toujours dans cette culture du team building, vraiment de la grosse fête.
Absolument.
Toujours ça n'a pas changé. Ouais.
Et on a une formation qui est universelle, qui s'appelle CIS, qui est vraiment une formation, mais qui ne traite pas que des sujets techniques. Elle traite beaucoup sur le bien-être, ça peut traiter également d'énormes de sujets. Et ça, c'est un langage international. Tous les salariés ont de la même formation, ce qui permet, les salariés, par exemple, quand ils se rencontrent à l'OMEL, vraiment de partager les mêmes valeurs.
Est-ce que DHL est toujours une boîte allemande dans sa...
Non, elle est très internationale.
Il n'y a plus de culture allemande près.
Je peux vous dire, les membres, les personnes à qui je reporte, il n'y a pratiquement pas d'allemand.
Non, mais ça, c'est pas grave. C'est bon, pour demander. En termes de culture, c'est complètement international comme entreprise. Vous, à titre personnel, vous avez bossé chez Accor, vous avez bossé chez Disney. Désormais, vous êtes dans la logistique. Ça n'a rien à voir. Vous vouliez complètement changer?
Oui, tout à fait. Je voulais changer de métier. Vous savez, je suis resté effectivement 17 ans à Disneyland Paris. Et je suis resté pas mal de temps à Accor aux États-Unis et ici. Et à un moment, il faut savoir aussi gérer d'autres métiers différents. Je pense
Vous avez toujours envie de gérer des gens? Parce que c'est.
Toujours.
C'est beaucoup de problèmes.
Alors, j'ai fait de l'opération.
La gestion des gens.
J'ai fait de l'opération. Quand je faisais de l'opération, ce que j'avais pris dans les ressources humaines m'a beaucoup aidé. Et inversement, quand je fais des ressources humaines, je peux comprendre ce qui se passe sur le terrain. Donc je trouve que c'est vraiment très, très important de comprendre effectivement ce qui se passe et de savoir qui sont nos clients internes.
Votre défi RH pour 2022, c'est quoi ?
On va faire une fusion entre deux grosses sociétés.
Ah oui, alors là, bon courage. Vous reviendrez nous en parler pour savoir si tout le monde se partage la même chaise et si ça se passe bien. On vous souhaite bon courage pour les fusions.
Merci beaucoup.
En termes de ressources humaines, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Merci beaucoup, Antoine Van Der Plage, directeur des ressources humaines de DHL Express, d'être venu nous voir. On va parler handicap.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Et on va parler inclusion ensemble. C'est cette semaine la 25e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. On est avec Nawal El Alaoui. Bonjour. Vous êtes consultante chez OnePoint. OnePoint, c'est un cabinet de conseil en transformation. Vous, votre spécialité, c'est le digital. Vous êtes membre du club du 21e siècle. Vous êtes devenue sourde à 100% à 18 ans. Est-ce que vous avez l'impression qu'au bout de la 25e édition de la semaine, il se passe quelque chose et que ça a changé le rapport au handicap en France ?
Oui, ça a changé, parce que tout simplement, les personnes en situation de handicap ont changé, parce que la loi aussi a changé. Il faut savoir que la définition de la loi en 2005, c'est portée sur le handicap en tant que physique, et aujourd'hui, elle porte sur le handicap en tant que situation. Déjà, à partir de là, en tant que personne en situation de handicap, j'exige que les situations, l'environnement soient adaptés à mon handicap et pas l'inverse. Et en fait, c'est vraiment ça qui a changé le rapport en fait au handicap et qui aussi a changé l'expression et l'exigence des personnes en situation de handicap.
Quand vous dites j'exige, ça veut dire que dans votre quotidien, vous êtes proactif, en tant que consommatrice, en tant que salarié ?
Les deux.
Tout le temps.
Déjà en tant que salarié, j'ai choisi OnePoint justement pour ça, parce que OnePoint a été et aujourd'hui, mon laboratoire dans lequel j'ai testé toute une offre sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. On est parti de l'accessibilité au recrutement, la communication, la sensibilisation des collaborateurs. Aujourd'hui, ça se diffuse sur nos trois antennes, Bordeaux, Nantes et Paris. Par la même occasion, en fait, j'utilise en fait mon exigence en tant que personne en situation de handicap, les usages dont j'ai besoin et dont ont besoin les personnes que je fréquente dans le milieu associatif, parce que je suis très active dans la partie associative pour les personnes en situation de handicap, que je fais remonter pour la co-construction des produits, des services et surtout aujourd'hui en fait de l'accessibilité numérique. Je trouve ça vraiment déplorable que je ne puisse pas aujourd'hui, moi en tant que malentendante, regarder un film en replay. Aujourd'hui, je ne peux pas regarder la télé comme je le veux, au moment où je le veux, parce qu'il n'y a pas de sous-titres. Voilà. Donc ça, c'est
des choses dont quand on n'est pas malentendant, on ne se rend absolument pas. Si vous me le dites pas, je suis pas au courant.
Exactement.
Et ça, vous faites des listes de choses qu'il faut faire changer, qu'il faut faire bouger.
Exactement, je fais des listes. Je vais rencontrer les gens. J'ai été rencontrer France Télé pour leur expliquer qu'aujourd'hui, c'est pas normal qu'on ne puisse pas regarder la télé avec du sous-titrage, qu'on ne puisse pas avoir des programmes en rediffusion pour les personnes malentendantes, sourdes ou même aveugles avec les adaptations nécessaires, que leur site internet ou que le site internet d'autres personnes, hein, parce qu'en fait là j'ai parlé de France Télé parce oui. que je suis une amatrice de films et de séries,
mais en fait c'est pareil partout,
il suffit de vouloir acheter en fait un produit en ligne. Et quand on parle d'accessibilité, on ne parle pas forcément que d'adaptation pour les personnes sur le handicap. Il faut savoir, par exemple, que vous, par exemple, Laure, vous voulez faire vos achats sur le site de Leroy Merlin ou n'importe quelle franchise. Le site, il n'est pas accessible sur le téléphone portable. En fait, et certains produits, vous ne pouvez pas les acheter. Et en fait, 38% des consommateurs ne vont pas jusqu'au bout de leur consommation parce que, tout simplement, l'accessibilité numérique n'est pas respectée.
Alors, dans le monde du travail, qu'est-ce qui ne va pas encore ? Les chiffres sont les mêmes que ceux de l'année dernière. 12 millions de personnes en situation de handicap. Et puis, des chiffres en termes de chômage qui sont dingues. Le chômage est deux fois plus élevé que pour les valides. Pourquoi ça ne change pas, ça ?
Ça ne change pas parce que la culture des entreprises n'est pas transformée en parallèle que celle du process. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises sont à fond à se dire « je vais aller recruter, je vais faire les salons ». Oui, ok, d'accord, mais le manager qui va recevoir cette personne sur son handicap n'est pas préparé. Donc aujourd'hui, dans l'offre que j'ai construite chez OnePoint, et comment est-ce que j'accompagne OnePoint, c'est justement par ça. Comment coacher ces managers qui, aujourd'hui, vont recevoir des personnes au-delà de leur handicap, ils vont recevoir des personnes avec une histoire, avec une expérience, un vécu. Et cette formation, ce coaching, cette interculturalité qu'on apporte aux managers, elle va leur servir tant avec les personnes en situation de handicap qu'avec les valides. Je vais vous raconter une petite anecdote qu'un manager a partagée avec moi. Il me dit, écoute, Nawel, d'habitude, quand on fait des réunions, tout le monde parle en même temps. Et depuis que tu es là, en fait, on fait attention. Du coup, on s'écoute.
Ça, c'est des soft skills. Ça, exactement. C'est une compétence personnelle que vous avez apportée.
Et que les gens développent de manière très intuitive, en fait. Comment dire ? En fait, une personne en situation de handicap, elle a un don de résilience. C'est-à-dire que moi, j'ai perdu un sens. Ce sens-là, aujourd'hui, fait que je lis de manière vraiment très intuitive sur vos lèvres, sur votre corps. Dans votre corps, vos expressions. C'est quelque chose que je n'ai pas appris à l'école, c'est quelque chose que mon corps et mon cerveau a développé. Eh bien, les personnes sur le centre de handicap, si elles n'ont pas été écoutées à ce jour, c'est parce qu'elles ont fait ça sur tous les handicaps. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive à un point où le digital, les nouvelles technologies peuvent apporter en fait un confort à ces personnes-là pour qu'elles
pour
se fatiguent
moins. Pour vous, ça change tout. Le numérique, le digital, c'est tout. Une nouvelle vie.
Bah, la preuve, aujourd'hui, grâce à Apple, vous avez des AirPods. Moi, j'ai mes AirPods depuis 2008. Mon téléphone est connecté à mes appareils auditifs, à ma télévision, à tous les appareils technologiques. Vous vous rendez pas compte,
en fait. Donc, dans l'inclusion dans le monde du travail, c'est fondamental.
Ah, pour moi, c'est primordial.
C'est pour ça que vous êtes conseillère numérique et inclusion. Vous mêlez complètement les deux.
Exactement. Et chez OnePoint, on a pris un engagement qu'aucun code, aucun développement de projet ne sort de chez OnePoint s'il n'est pas accessible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'accompagne tous les collaborateurs, enfin, tous nos consultants, tous nos leaders, tous nos partenaires sur les sujets de l'accessibilité. Parce que pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas offrir une refonte d'une plateforme digitale à un client sans lui parler de son obligation, parce que c'est une obligation légale, avec des amendes derrière et qui vont faire que monter, puisque notre ministre, Madame Sophie Clouzel, est sur le sujet. Je suis sur le sujet avec pas mal d'autres entreprises, puisqu'on est signataire du manifeste pour l'inclusion. Aujourd'hui, la loi est là, la réglementation est là, les entreprises ne sont pas informées. Et à partir du moment où elles sont informées, à partir du moment où elles voient aussi le volet business qu'il y a derrière, les personnes sur le handicap sont des consommateurs, autant que vous que moi, et à partir du moment où j'apporte du confort pour une personne en situation de handicap, en fait, je pousse de manière dans l'ergonomie, dans le côté responsable et RSE, les autres à consommer chez moi et à venir chez moi. Prenons l'exemple de grandes entreprises telles que L'Oréal. Rien que par leur responsabilité sociale, économique, on a tendance à vouloir aller acheter des produits L'Oréal parce qu'on sait qu'ils sont à fond sur toute la partie diversité, l'égalité homme-femme, le handicap.
Oui, mais quand vous entendez L'Oréal ou les autres boîtes parler handicap, tout le monde fait des efforts de dingue, tout le monde est super ouvert, l'inclusion, c'est la priorité numéro un. Mais bon, dans les chiffres, sur le chômage, il ne se passe pas grand-chose.
Ils ne vont pas jusqu'au bout, et je le dis clairement, aujourd'hui, il ne s'agit pas de process, il s'agit de process et d'humain. Le culturel, la formation des managers, la sensibilisation, et aussi la prise de conscience. La première chose que j'avais fait comme activité chez OnePoint, quand je suis arrivée, une fois que j'ai parlé à monsieur David Layani, à
Parce que vous allez parler à tout le monde, clairement.
Pour le coup, c'est en plus, on me connaît pour ça. C'est-à-dire que j'arrive dans une entreprise en tant que consultante en transformation digitale, la première chose que je fais, c'est leur dire non, non, je veux rentrer dans l'inclusion, je vais voir David, j'ai besoin de son feu vert parce que aujourd'hui, les collaborateurs OnePoint le souhaitent, mais pas que les collaborateurs OnePoint, les futurs candidats qui veulent venir travailler chez OnePoint, mais aussi les élèves qui sont à l'extérieur, parce que même dans les écoles, je travaille avec beaucoup d'écoles, et aujourd'hui, on nous dit, mais comment faire inclusif? Parce qu'en fait, on est dans une ère de globalisation, et quand on parle accessibilité numérique, on parle aussi d'intégrer des personnes qui ne maîtrisent pas la langue française, par exemple.
Il nous reste 30 secondes, Nawal, à qui vous voudriez parler dans le monde et à qui vous n'avez pas encore parlé? Lancez un appel.
Je lance un appel. Je m'attendais pas à celle-ci. En fait, je lance un appel à toutes les entreprises françaises pour leur dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de chiffres, il ne s'agit pas de réglementation, il s'agit de culture d'entreprise et d'accompagnement des personnes en situation de handicap et des personnes valides. Il faut arrêter de séparer entre ces deux-là.
Eh bien, j'espère que le message sera entendu. Nawal El Alaoui, si vous n'avez pas entendu le message, elle viendra vous le dire à votre porte directement, consultante chez OnePoint. On va parler de mobilité.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
Et on va lutter contre les psychodrames. Pourquoi démissionner de son job, c'est toujours une crise personnelle et une crise dans son entreprise. On est avec Marion Vaquin, bonjour. Vous avez créé Wix Job, c'est une start-up que vous avez lancée avec une autre spécialiste de la finance. Le site existe depuis avril 2021. Ça fait 2 ans que vous bossez sur l'idée d'échanger son job avec quelqu'un. Votre constat, c'est que dans l'entreprise, bouger, c'est compliqué.
Bah, non seulement bouger c'est compliqué, mais c'est un tabou. C'est-à-dire que quand on a un souhait de mobilité externe, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on cherche un peu en cachette.
On se cache, ouais.
On n'en parle pas à son entreprise, on n'en parle pas vraiment à ses collègues non plus. Donc voilà, donc c'est un peu cet univers un peu désagréable pour le salarié. Et puis d'un autre côté, l'entreprise, lorsqu'on présente la démission en général, ça se passe.
On est toujours un traître. On arrête ses dossiers, on va à la concurrence, on est toujours un traître.
Alors pas toujours. Mais très souvent. On peut dire que très souvent, en effet, c'est un peu comme ça que c'est perçu. Alors là, les entreprises, la première réaction, c'est « Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ? Et pourquoi ?» Enfin voilà, comment on va faire, comment on va s'organiser ? Ça va être compliqué de te remplacer. Et en fait, on ne cherche pas à anticiper les choses et on ne cherche pas à créer un climat, justement, de dialogue pour pouvoir faire cette un peu transition en coordination, en fait, entre l'entreprise et le salarié.
C'est-à-dire que vous voulez faire en sorte qu'on en discute. On dit, moi, j'ai envie de partir, je suis dans une dynamique de mouvement. Ça ne veut pas dire que je vais vous abandonner en race campagne au milieu d'un dossier, mais j'ai cette envie.
C'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on veut. C'est un peu créer cet univers qui permet de dédramatiser, en fait, le départ d'un salarié, où chacun y voit aussi son intérêt. Le salarié y voit son intérêt, l'entreprise, on aligne les intérêts, en fait, des deux, des deux parties prenantes.
Pour finir avec l'urgence, en fait, l'urgence du remplacement, le dossier qui est plus géré, etc.
La charge de travail qui porte sur les équipes, le coût aussi, parce que pour une entreprise, ça a un certain coût. Hein, c'est évalué entre 6 à 9 mois de salaire, hein, quand même, le coût d'un remplacement d'un collaborateur qui n'est pas anticipé.
Et donc vous, votre idée chez Wixjob, c'est de dire c'est public, je veux partir, j'ai tel poste, je souhaiterais partir, est-ce que ça intéresse quelqu'un de me remplacer? Et là, on travaille sur tripartite, en fait, entreprise, potentiel recrutement et départ.
Exactement, c'est tout à fait ça. C'est mettre en relation, en fait, des gens qui ont un souhait de mobilité, alors qui peut être à très court terme, à moyen terme, à un petit peu plus long terme. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre en relation les salariés qui ont un souhait de mobilité, parce qu'aujourd'hui, en fait, on le voit nulle part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez sur le marché de l'emploi que les postes qui sont ouverts, mais absolument pas les postes qui sont occupés par des gens qui veulent bouger.
Surtout pas, sinon c'est une mauvaise nouvelle d'ailleurs. Si on publie votre poste et que vous l'occupez, c'est pas. Vous pensez vraiment que c'est possible? Est-ce que c'est pas une utopie du monde du travail de penser qu'en fait tout peut se faire bien?
Alors, ça peut pas marcher dans tous les cas. C'est pas du 100%, c'est sûr. Après, si c'est possible, oui, c'est possible. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait à titre personnel quand j'ai quitté mon entreprise. Donc, je pense vraiment que les mentalités ont évolué, que de plus en plus, en fait, les salariés ont des souhaits de mobilité. On l'a vu aussi avec la crise du Covid. Ça peut être pour plein de raisons, en fait, différentes. La mobilité, c'est pas simplement je suis pas bien dans mon entreprise, donc je veux partir. Et il peut y avoir aussi un souhait d'aller vivre dans une autre région, de suivre un conjoint qui est muté quelque part. Donc, voilà, je pense qu'il faut juste ouvrir le dialogue et faire en sorte que les choses se passent bien pour tout le monde.
Quand vous discutez avec les DG ou les DRH, vous essayez de leur faire comprendre de l'intérêt business de cette fin du tabou du départ?
Alors, L'intérêt business, c'est comme je vous disais, hein, c'est les coûts de recrutement, ça, ils le voient tout de suite. Après, il y a souvent peut-être la peur de dire, mais je ne veux pas les laisser partir, je ne veux pas laisser, je veux pas ouvrir la boîte.
C'est mon équipe.
Je ne veux pas qu'ils partent tous. Et en fait, ce qu'on dit, c'est non, un salarié qui veut partir, en général, c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi, c'est un projet personnel. Et en fait, bah, y en a certains, justement, ouvrir le dialogue, ça va permettre d'une part de pouvoir échanger hein, sur s'il y a des problématiques auxquelles l'entreprise peut répondre, bah, tout est gagné, hein, le salarié reste et puis l'entreprise est contente, et peut-être que c'est simplement un souhait d'évolution, et dans ce cas-là, l'entreprise, elle gagne aussi un ambassadeur. Parce que
parfois, on peut vouloir revenir aussi.
Alors, exactement. Alors, l'effet boomerang, ça se voit aussi de plus en plus, hein, des salariés qui quittent une entreprise 2-3 ans, et qui reviennent ensuite, ou même un peu plus longtemps, mais qui souhaitent aussi revenir après, en ayant acquis une compétence et une expérience différente.
Faites de vos salariés des ambassadeurs, même quand ils n'y sont plus, qu'ils gardent l'esprit de l'entreprise, et peut-être même l'envie de revenir.
Exactement.
Merci beaucoup Marion Vaquin, cofondatrice de Wix Job. C'est la fin d'Happy Boulot, le mag. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business. Je vous souhaite un excellent week-end.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.